Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc ?
Bouffon ?
À manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
En préparant cette émission, je me suis fait la réflexion que j'étais incapable de me souvenir de la dernière fois que j'ai mangé un couscous. Enfin, j'en ai le souvenir, mais je ne saurais pas dire exactement quand c'était. Et perso, je pense que dans la vie, on devrait toujours pouvoir dire exactement quand était la dernière fois qu'on a mangé un couscous. Et d'ailleurs, ça devrait se compter en jours et pas plus de 10. Je sais pas si ça compte comme une résolution, manger plus de couscous, mais on va dire que oui. Tout le monde aime le couscous, je vous jure que c'est vrai, tout le monde aime le couscous. À un point que ce plat a d'ailleurs réussi à se hisser dans le classement des plats préférés des Français, au milieu de la blanquette et du faux filet. Et ça, je trouve ça quand même assez beau. Et il en fallait pas moins pour qu'on ait envie de dédier un épisode entier au mariage parfait de la graine, du bouillon, des légumes et de votre choix de viande ou de poisson. On a invité le Maroc et la Tunisie au micro de Bouffon, et je vous jure que c'est juste parce qu'on n'invite que deux invités, sinon on aurait évidemment invité l'Algérie. Deux femmes, deux générations de chefs. En deuxième partie, c'est Siwar Damak qui a ouvert tout récemment Tounsia, un restaurant tunisien dans le 10e arrondissement de Paris qui sert des sandwichs tunisiens et bien sûr du couscous.
Personne n'aime pas le couscous, c'est un plat hyper agressif pour moi. C'est le plat de toutes les occasions, dès qu'il y a quelque chose à fêter, dès qu'on se retrouve parce que tout le monde est parti vivre à droite à gauche. Donc le dimanche où on se retrouve tous, c'est couscous chez ma mère. Donc vraiment, le couscous, c'est ça, c'est l'équivalent d'un repas de Noël qu'on peut faire un peu tout le temps dans l'année.
Mais pour commencer, on va parler histoire, on va parler de la place du couscous dans la vie du Maghreb et évidemment de recettes, de variantes, etc. Et tout ça, on va le faire avec Fatema Al, anthropologue, autrice et chef du restaurant La Mansouria.
Très souvent, la cuisine, malheureusement, avant, quand on pensait à la cuisine, on disait que c'est dans le domaine des femmes, comme si les femmes n'étaient pas intéressantes et comme si la cuisine n'était que pour le goût. C'est déjà bien, le goût est important, mais la cuisine, c'est aussi de la politique, de l'économie, du social et du culturel. Je mets le culturel à la fin par provocation, parce que souvent, on reconnaît le côté culturel de la cuisine, mais jamais on pense à l'économie et à la politique.
Alors on va commencer tout de suite à parler de couscous. Et avant de parler de l'histoire du couscous dont on va parler et des recettes, etc., d'abord je voulais qu'on soit un peu tous sur la même longueur d'onde et qu'on corrige peut-être une erreur que moi j'avoue avoir fait aussi souvent. Et c'est quoi la différence entre le couscous, la semoule ? Est-ce qu'on peut arriver à juste clarifier tout ça ?
Une très bonne question, parce que souvent les Français, quand on leur donne le couscous sans légumes et sans sauce, ils disent c'est de la semoule. Mais non, le couscous, ce n'est pas de la semoule. Le couscous est préparé à base de semoule, d'eau et de farine. On le roule et ça donne le couscous. Donc le couscous, c'est une préparation déjà. C'est comme les pâtes. Si on dit de la farine, on ne parle pas de pâtes. Mais les pâtes, c'est à partir de la semoule ou de la farine. Ce plat est en train de conquérir le monde et ce n'est pas très étonnant. Parce que c'est le plat le plus équilibré au monde, le plus sain, quand on le fait bien évidemment.
J'ai entendu dire dans une interview que en fait le problème, on a tendance à assimiler semoule et couscous parce que via l'industrialisation, en fait, le couscous ressemble à de la semoule.
Absolument.
Alors que normalement, il est fait à la main par
tout à fait
plusieurs personnes.
Alors, par exemple, dans les années 70, le début de l'industrialisation au Maghreb, en tout cas du couscous préparé, pré-cuit qu'on trouve dans les sachets, les familles ne l'achetaient pas. Et maintenant, il y a très peu de familles qui roulent encore les couscous. Et encore, bien sûr, il en reste, mais la plupart du temps, ils achètent le couscous préparé au kilo. C'est vrai que le couscous industriel ressemble un petit peu à la semoule, surtout quand il est très fin. Mais quand même, ils le préparent à partir de semoule, farine et eau.
Oui, c'est un peu. Est-ce que c'est l'analogie pour les pâtes peut continuer aussi entre la différence entre des pâtes fraîches et des pâtes industrielles, dites pâtes sèches, par exemple?
Alors, c'est vraiment, vos questions sont très intéressantes parce que le couscous n'est rien d'autre que la pâte la plus fine au monde. Autant les pâtes, c'est vrai que les pâtes fraîches, pour certains. Moi, je connais une des plus grandes prêtresses de la cuisine italienne, Leda Paravia, qui a écrit des livres, qui est journaliste et qui cuisine divinement bien, qui connaît vraiment cette histoire et qui n'aime pas les pâtes fraîches, elle n'aime que les pâtes séchées. Elle me fait très plaisir parce que le mode de séchage vient du Maghreb. Et les Italiens nous le reconnaissent quand même. Oui, c'est un petit peu la même chose, donc, mais la plupart des gens préfèrent le couscous séché, parce que même dans la tradition, on le préparait et on le faisait sécher pour le trouver toujours à portée de main.
Il se conserve combien de temps le couscous séché fait à la main ? Super
simple. Alors, le couscous qu'on prépare à la main, et ça durait des jours et des jours, pour le faire sécher, c'est ça qui est sublime. Ces femmes qui n'ont jamais été à l'école, pour la plupart, qui ne connaissent pas du tout la chimie, la physique, les sciences, elles ont compris que, par exemple, pour le faire sécher, il faut le faire sécher, bien sûr, au soleil. Mais elles ne le faisaient jamais sécher au soleil directement, mais à l'ombre. Pour la simple raison, c'est qu'elles ont compris que le bon séchage doit se faire lentement. Parce que quand ça sèche très vite sous un soleil très fort, à l'intérieur, ça reste humide. Et si ça reste humide, bah, les bactéries se développent très vite. Elles n'utilisent jamais le mot bactérie, mais elles disent, si on le sèche très très vite, on peut devenir malade. Donc c'est merveilleux.
C'est le sens de la bactérie. et alors, c'est peut-être une question un peu vaste, mais quelles sont les origines du couscous ?
Les origines du couscous, le couscous est incontestablement berbère. Il est né au Maghreb. Ça, c'est... voilà. Il appartient aux juifs comme aux musulmans, puisque avant l'arrivée de l'islam, ils étaient berbères. Certains étaient juifs, d'autres musulmans. Et bien avant d'être juifs, ils étaient aussi... On remonte pas jusqu'à l'origine, mais en tout cas, on a trouvé des traces du couscous au temps de Massinissa, c'est-à-dire quand même quelques siècles avant Jésus-Christ. C'est maghrébin.
Le couscous arrive en France, alors on voit des occurrences du couscous dès le 19e, il me semble, mais là où il arrive vraiment en France, c'est avec le retour des colons d'Algérie qui le ramène en fait.
Alors juste avant, il y avait avec les Algériens qui sont arrivés pour les travailleurs algériens et donc c'était quand même assez timide. Ils préparaient leur couscous dans les cafés à partager entre eux. Soit ils étaient la plupart du temps ils étaient des célibataires. Mais on l'a vraiment, c'est un petit peu. Il s'est fait connaître un peu plus avec l'arrivée à l'indépendance de l'Algérie, avec l'arrivée des pieds noirs. Il s'est folklorisé un petit peu le couscous au merguez, couscous royal, etc. Et il est devenu beaucoup plus... on le regardait un peu plus sérieusement à partir des années 80. Et les années 2000 et dernièrement, là, il est en train de conquérir pratiquement le monde. Moi, j'ai donné plusieurs interviews pour les Chinois, les Japonais. Et c'est normal parce que le monde entier et tous les êtres humains adorent les céréales. Donc, on mange les pâtes, on mange le riz. Il n'y a pas de raison qu'on ne mange pas le couscous.
D'ailleurs, pour juste revenir à sa première incursion en France, dans les années 50, d'ailleurs, j'avais cru comprendre que les pieds noirs quand ils étaient en Algérie, négligeaient un peu le couscous et qu'en l'emportant en fait et qu'en rentrant en France, ils l'ont ramené avec eux comme un souvenir un peu pas faussé mais un peu fantasmé de ce qu'était vraiment leur vie en Algérie alors que ils en consommaient pas vraiment en fait si quand ils étaient...
C'est pas qu'ils le consommaient pas, vous savez c'est comme un français un plat très traditionnel qu'il voit tout le temps, on a l'impression en fait qu'il fait plus attention qu'il l'aime pas mais quand il change il va dans ça réveille des souvenirs en lui et c'était ça en fait parce que le couscous c'est quand même le plat du vendredi, on le mange, on le voit tout le temps, on peut pas vivre sans le couscous, c'est le plat du partage, le couscous on le prépare jamais pour une personne, on le prépare pour le manger ensemble. Et donc, voilà, on le néglige aussi. Moi, à un moment donné, pendant des années, j'aimais pas du tout le couscous, je voulais même pas qu'on m'en parle. Et puis, c'est marrant, en écrivant mon premier livre du couscous, je me suis réconciliée et je le mange pratiquement deux ou trois fois par semaine.
Deux ou trois fois par semaine.
Oui. Okay.
vous parlez de couscous merguez, couscous royal et la façon avec laquelle on avait un peu adapté le couscous en l'amenant en France. C'est vrai que le couscous royal n'est pas un vrai couscous
original. Non, il n'y a pas de couscous, royal parce qu'au Maroc, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, on mange le couscous avec une viande ou du poisson, mais pas un mélange. Si c'est le poulet fermier, c'est le poulet fermier. Si c'est l'agneau, c'est l'agneau. Les merguez, d'ailleurs, injustement, pendant longtemps, je disais, nous, on n'a pas les merguez, c'est les pieds noirs. Mais les merguez, le mot, la fabrication, et on les trouve dans les livres de Ibn Razin Toujibi en Andalousie. Et le mot est arabe, al-merqas. Sauf que, et donc, on préparait les saucisses. Le merkas, c'est une forme de saucisse. Et qu'on a négligé, on a oublié. C'est revenu peut-être dans la mémoire des gens par l'arrivée et la colonisation française qui faisait des saucisses. Et là, on disait saucite. Mais le saucite, et on a oublié les merguez qui sont arabes. Et maintenant, on pense que les merguez ne le sont pas. C'est assez curieux et j'aime beaucoup. C'est je t'aime moi non plus, ces allers-retours.
En fait, si je comprends, c'est-à-dire que les merguez ont déjà existé à un moment au Maghreb. Elles ont été un peu perdues. Enfin, on en trouve des traces en Espagne. Et en fait, quand les Européens et les Français reviennent bien plus tard, apportent des saucisses avec eux, là, ils disent « Ah, mais nous aussi, on faisait ça avant. » Et le réadaptent.
Oui.
Ah, c'est incroyable, c'est vraiment un aller-retour.
Ce qui serait génial, c'est de voir est-ce que les saucisses existaient en France au 12-13e siècle. Parce que les merguez existaient. Et voilà. Et c'est ça qui me passionne dans la cuisine. C'est qu'est-ce qui me lie aux autres. Pas pour dire « Nous, on a inventé » ou « Vous, vous avez inventé ». Ça, franchement, ça n'a aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est de retrouver l'histoire des choses. Mais après, ce qui m'intéresse, c'est que ce miracle de garder ce lien entre nous par le goût, par les techniques, les gestes, et voilà. Et c'est un des derniers liens forts qui reste à l'humanité, la cuisine.
Et c'est vrai que c'est un truc qu'on fait assez peu, je trouve, en tout cas, moi et les gens autour de moi, mais de regarder la cuisine par le biais de l'histoire, parce qu'on apprend énormément de choses, en fait, sur les échanges, sur les origines de différentes choses, et qu'en fait, on a l'impression, ou souvent les gens un peu conservateurs ont l'impression que tout a toujours été comme ça l'est aujourd'hui.
Absolument.
Alors que pas du tout.
Mais non, parce que quand les gens vous disent le terroir, dans mon prochain roman d'ailleurs, il y a un chapitre où je dis le terroir, cette belle escroquerie. Si on n'explique pas aux gens, quand on a un produit, il vaut mieux privilégier le produit du terroir, mais en même temps, si la France n'a utilisé que les produits du terroir depuis très longtemps, elle n'aurait pas de cuisine. Tout vient d'ailleurs. Et pour les autres pays, c'est pareil.
C'est très juste. C'est quoi la recette de base du couscous? Justement, là, on parlait des recettes adaptées, mais c'est quoi les éléments vraiment qu'on retrouvera dans tous les couscous?
Alors, de toute façon, si on retourne à l'histoire, vous savez, ça suit l'histoire de la nourriture et de l'être humain. L'être humain, il cuisine ce qu'il trouve à côté de lui. Si on est au bord de la mer et on a un peu de couscous, on va le cuisiner avec du poisson et les légumes qu'on trouve. Si on est comme vers Agadir Taroudant, il y a pas mal de figuiers. Les figues qui tombent, les figues laiteuses, il les ramasse, il les prépare comme légumes. Moi, quand j'ai raconté ça à maman, elle m'a dit « Ah non, ça c'est les Français, les figues dans le couscous », alors que c'est des Berbères qui n'ont jamais voyagé. Mais sinon, dans la saison, on a des carottes, on a des navets, on a des choux, on a des courgettes, et en plus c'est très sain. C'est le seul plat d'ailleurs le plus complet et le plus extraordinaire au monde, pour la simple raison, il n'y a aucun plat au monde, dans aucune cuisine, où on trouve les céréales, la viande, les légumineuses, donc les pois chiches, les fruits secs, les raisins, et cette légume, plus les herbes, les épices, tout ça c'est excellent pour la santé.
Et c'est vrai que c'est aussi un plat dont la version végétarienne n'est pas moins bien que la version avec de la viande.
Non, la version végétarienne est meilleure même.
Voilà ce que je...
Ah non, elle est exceptionnelle. Quand vous avez le couscous d'orge, qui est complet et non pas raffiné, avec des légumes, quelques pois chiches ou quelques fèves séchées, c'est juste génial, excellent.
Et alors, le couscous, vous le disiez, est un plat de réunion, de rassemblement, mais c'est pas... pas un plat de fête. Enfin, pas qu'un plat de fête. Pour les deuils aussi, j'ai vu que...
C'est un plat, le seul plat qui accompagne le maghrébin de la naissance jusqu'à sa mort. Alors qu'on peut le préparer pour une naissance, pour toutes les fêtes, pour le mariage, pour toutes les fêtes, et aussi pour le deuil. Mais la pastilla, par exemple, non. La pastilla, on la prépare quand on a la possibilité de la faire, uniquement pour les fêtes.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que aussi, c'est un plat de rassemblement, même dès la confection, en fait, dans l'origine, en fait, dès qu'on se mettait tous ensemble pour préparer ces graines. Et c'est drôle qu'en fait, c'est cette chose de se mettre autour, enfin, qu'on est constamment autour du couscous, en fait, de sa création jusqu'à sa consommation, j'ai l'impression.
Oui, parce que le geste est beau, la matière est belle. Il y a les parfums, on peut parler. Quand on regarde, c'est comme une scène, une architecture. Ça se prépare, ça se monte et on le mange. On ne peut pas faire un couscous, on ne peut pas faire un peu. Donc, et ce qui reste, on va le donner aussi aux pauvres. Donc voilà, le couscous, c'est une belle histoire, en fait.
c'est vrai que c'est dit comme ça, c'est encore
plus beau. C'est une belle
histoire. Quel est peut-être pour dire les erreurs qu'on fait, nous, occidentaux, quand on prépare un couscous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez des gens, vous dites, ah, faut peut-être pas faire ça quand vous le cuisez, ou peut-être mettez ça dans votre sauce, ce sera mieux. Si on a des petits conseils à donner.
J'ai du mal à critiquer ceux qui aiment le couscous, parce que quand ils l'aiment, les Français, ils l'aiment vraiment, ils en mangent à la limite plus que nous-mêmes. Mais c'est vrai que des fois, il y a des petites erreurs, ils mettent trop de sauce, et ça... on a l'impression que ça devient presque comme une soupe. Alors qu'il faut peut-être mettre un petit peu moins, mais après tout, c'est leur goût. L'essentiel, c'est de sentir cet amour de ce plat qui va un peu plus loin. C'est aussi l'amour de l'autre. C'est aussi prendre le temps de connaître l'autre, de partager quelque chose avec lui. Bah, quand on nous aime comme ça, c'est beau.
C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez joli dans l'idée que c'est un truc qui se fait beaucoup à plusieurs, qui prend du temps, parce qu'on peut qu'en faire beaucoup. Donc en fait, de toute façon, c'est forcément un truc qu'on va partager. On va jamais faire un couscous.
Le partage s'impose de lui-même quand on fait le couscous. Oui. C'est ça qui est bien. On peut pas dire on va le faire et on va garder, on va manger pas. Non. On le fait, on invite, et si on n'a personne, on est seul, il y a toujours les voisins.
Tu sais qu'il y a quelques plats comme ça, comme la raclette ou le barbecue, où c'est vraiment des plats qu'on ne peut que les faire pour le partager.
C'est vrai. Sauf que c'est moins, moins équilibré.
Oui. J'entends tout à fait. Et on dit souvent d'ailleurs que le couscous, c'est le plat préféré des Français. C'est vrai ça ou pas?
Alors, si on juge par les gens qui viennent dans les restaurants, oui. Si on juge par les gens... Le couscous, c'était le... En tout cas, ils ont dit que c'était le deuxième plat des Français. À un moment donné, on a dit que c'est le premier plat préféré des Français. C'est très bien.
Ah oui, complètement.
C'est parfait. Et en plus, comme tout le monde dit, il faut 5 légumes par jour pour la santé, ben là, vous en avez 7.
Vous en avez 2 d'avance. Et alors, pourquoi du coup? Parce que c'est le plat préféré des Français, ou en tout cas, il est très bien placé dans les classements des plats préférés des Français. Mais pourquoi il y a si peu de chefs, hors chefs d'origine maghrébine ou de chefs qui ont des restaurants maghrébins, qui s'y attaquent? C'est-à-dire qu'on voit souvent des fish and chips revisités, des pizzas revisitées, des plats de tous les autres pays revisités. On voit jamais de couscous revisité ou même forcément proposé à la carte. C'est très très rare.
C'est vrai, c'est très 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 rare, mais ça commence. C'est très rare, mais ça commence. Peut-être qu'il est très imposant, hein, le couscous. Et puis, je crois que il y a cette contradiction qui m'amuse chez les Français. Très souvent, on dit, je vais manger un petit couscous. Je vais manger un petit foie gras. Quand on dit foie gras, on comprend tout de suite que c'est fin, c'est raffiné, c'est quelque chose de précieux. Quand on dit, je vais manger un petit couscous, ça veut dire pas cher, pas important. Mais en même temps, il l'aime. S'il est le deuxième plat, c'est qu'il l'aime plus que le foie gras. Il y a cette contradiction, mais il y a tellement de tendresse dedans que voilà.
Et est-ce que peut-être aussi il y a la peur de s'attaquer à... Parce que j'ai l'impression que si moi je veux manger un couscous, je veux que ce soit un restaurant qui soit tenu par un chef, comme avec le japonais, quoi. Je veux que ce soit un chef qui ait des origines ou qui vienne vraiment directement du pays. Enfin, je veux être sûr, une certification. Et peut-être qu'en fait, les chefs, ils disent « oui, je ne vais pas tenter le diable » alors que les gens vont pas en vouloir de mon couscous puisqu'ils pourront en manger un pas loin.
C'est vrai. Peut-être aussi, vous savez, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec une famille juive qui était, c'était nos voisins. On échangeait beaucoup. Et ils faisaient le pain d'azim qu'elle préparait elle-même, al-qaq. Et elle nous l'offrait à chaque année. Et moi, j'adorais. Et puis, j'ai dit à maman, moi je ne vais pas attendre un an pour manger ça. Tu sais cuisiner, demande-lui à Freha la recette. Freha a donné la recette à ma mère l'a ratée. Alors qu'elle ne rate jamais rien. C'était juste quelque part pour dire, il faut garder cet échange. Nous, on vous offre quelque chose, vous nous offrez quelque chose. Peut-être pour le couscous, c'est pareil. Ils préfèrent aller le goûter, le partager chez l'autre pour continuer cette histoire humaine et belle.
Merci à Fatema Hall d'être venue nous raconter tout ça. Vous pouvez la retrouver dans son restaurant ou dans un des nombreux livres qu'elle a écrit sur la cuisine marocaine. Et maintenant, c'est au tour de Siwar Damak de venir devant le micro de Bouffon. Siwar, elle a ouvert Tounsia, un restaurant aussi tunisien que cool, que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Esterelle Payani, pour citer le trouveur. Elle avait chroniqué dans Télérama. Et vous vous souvenez, Esterelle, elle était venue dans Bouffon parler de Macédoine, tout ça, enfin bref. Chez Tounsia, pour revenir à nos moutons, on sert évidemment du couscous, un très bon couscous, comme le prépare maman, dira Siwar, et c'est d'ailleurs très important pour elle, mais elle le racontera mieux que moi.
La première chose qui me vient, c'est que le couscous, c'est le plat du dimanche midi avec toute la famille. Le plat qui réunit tout le monde, en fait. Personne n'aime pas le couscous. C'est un plat hyper agressif pour moi. C'est le plat de toutes les occasions. Dès qu'il y a quelque chose à fêter, dès qu'on se retrouve, parce que tout le monde est parti vivre à droite à gauche. Donc le dimanche où on se retrouve tous, c'est couscous chez ma mère. Donc vraiment, le couscous, c'est ça. C'est l'équivalent d'un repas de Noël qu'on peut faire un peu tout le temps dans l'année.
C'est une pure définition. Et ton premier souvenir de couscous, est-ce que t'en as un déjà? Ou alors c'est tellement un truc qui t'accompagne depuis toujours que...
Ah ouais, non, j'ai aucun souvenir de premier couscous. Pour moi, le couscous, c'est... Ouais, c'est vrai. Ça a toujours existé, ça a toujours été là. Et en fait, je pense qu'avant, le couscous, c'était... Je faisais pas attention. Pour moi, un couscous, c'est un plat comme un autre, mais qui symbolisait le fait qu'on se rassemble. Et c'est vraiment en vieillissant et en le faisant découvrir à mes amis qui n'ont pas l'habitude d'en manger régulièrement que je me suis rendu compte que pour beaucoup de monde, déjà, c'est un repas du soir, c'est un repas un peu festif. Là où pour moi, ça a toujours été un repas du midi parce que c'était le dimanche midi, couscous. On mangeait jamais de couscous le soir. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui mangent le couscous le soir dans les pays du Maghreb.
Parce que c'est trop riche et que c'est...
Je sais pas, ouais, c'est le plat où on va faire la sieste après, quoi.
Ouais.
Et après, bon, faut savoir, en Tunisie, le couscous, c'est pas forcément le plat le plus consommé. C'est beaucoup consommé, mais la Tunisie, c'est un pays de pâtes. Donc, les gens mangent beaucoup de pâtes, midi et soir. Et le couscous, c'est le dimanche. Donc, il y a aussi... C'est le dimanche, c'est au mariage, aux circoncisions, aux grands événements, quoi. Donc, il y a aussi ce rapport-là, je pense, au... le couscous m'a toujours accompagnée. Et puis après, j'ai découvert un jour, pour des gens, c'était le repas du super restaurant marocain du coin du soir. Là, vous savez que moi, j'avais pas cette vision-là. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, en fait.
Et tu fais des études de cuisine ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Avant d'ouvrir le restaurant que tu as aujourd'hui, qui s'appelle Tounsia?
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles dans quoi?
Alors, avant d'ouvrir Tounsia, je faisais quelque chose de complètement différent. Je produisais des documentaires, des émissions de télévision. Donc, je travaillais dans une petite société de production et je m'occupais de tout ça, en fait, à trouver des concepts d'émissions et ensuite à les produire. Mais j'avais cette idée, en fait, de restaurant depuis un bon bout de temps. En fait, je l'avais depuis que je faisais mes études, donc avant d'avoir cette expérience en production. Et ça me trottait dans la tête, je savais pas trop comment m'y prendre. Je savais pas dans quel sens prendre le truc. À la base, moi, ce que je voulais vraiment, c'était faire des sandwichs tunisiens. C'était ça que je voulais faire découvrir. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que le couscous de ma mère est exceptionnel. Ce que tout le monde va dire, hein, bien sûr, c'est toujours le couscous de sa mère qui est exceptionnel. Mais vraiment, j'avais envie de faire découvrir ce couscous tunisien parce que tout le monde connaît le couscous algérien et marocain. Il y a très peu de restaurants tunisiens à Paris. Et j'avais envie de faire découvrir ce couscous qui a la particularité d'avoir une semoule très fine, qui est déjà un peu mouillée avec du jus, donc une semoule plutôt rouge. Les Tunisiens, ils sont connus pour mettre beaucoup de piment et de tomates. Donc beaucoup plus que dans les couscous marocains et algériens. Et ça, j'avais envie de le faire connaître. Et ça m'est venu ensuite quand je me suis dit, bon, il n'y a pas que les sandwichs tunisiens. Il y a quand même ce couscous qu'il va falloir faire découvrir. Et puis l'idée aussi, voilà, de le servir dans un contexte justement plus casual, plus cantine. Vu que moi, c'est comme ça que je le voyais et pas comme dans un restaurant plus traditionnel. Pas en repas du soir, mais plus en repas du midi. Ouais.
Oui, pas des tables avec des jolies nappes blanches, mais un truc un peu plus classique. Parce que, ouais, pour expliquer, Tuncia, c'est donc un restaurant qui est ouvert que le midi.
Ouais.
Et vous servez donc différents types de couscous. Et ce que tu dis, les sandwichs tunisiens, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Parce que je pense que pas tout le monde
alors,
voit ce que c'est.
En fait, la Tunisie, c'est un pays de street food. Les gens mangent vraiment beaucoup sur le pouce. En chemin, ils se prennent un petit sandwich à 4 heures. C'est vraiment la culture de la street food. Donc il y a beaucoup de sandwichs différents tunisiens. Le vrai sandwich tunisien, c'est un sandwich au thon, à l'œuf et des petites pommes de terre. Ce qu'on appelle la slata tuncia. C'est une salade avec plein de petits légumes coupés en petits morceaux, à base de poivrons, de pommes, de tomates. C'est parfumé avec de la menthe et de l'huile d'olive, du citron. C'est super. Et en fait, ce sandwich, il est très simple. Tous les sandwichs tunisiens sont à base de thon. Et c'est ça que je voulais faire découvrir. Alors après, j'ai un peu élargi le spectre. Il y a un sandwich tunisien qui s'appelle le chapati, qui est à base d'omelette et de thon, que je propose au restaurant, que j'ai un peu muté en sandwich tunisien parce que j'y ai rajouté aussi cette fameuse slata tuncia et la rissa.
Et le pain, il est comment dans les sandwichs?
C'est du pain artisanal à la farine de semoule. Donc avec un levain naturel, vrai pain avec ce petit goût de fenouil qu'on aime bien.
Et donc depuis longtemps, tu as eu cette idée en tête de créer ce restaurant. Est-ce que avant de quitter ton travail pour le faire, est-ce que tu avais déjà peut-être même pris des cours de cuisine après ou vraiment tu es complètement autodidacte?
Je suis complètement autodidacte. Après, j'ai une grosse bibliothèque de livres de cuisine parce que j'adore ça. Enfin, je m'informe par moi-même comme je peux. J'ai fait un stage intensif de couscous auprès de ma mère parce que autant où tout ce qui était sandwich, salade et tout, c'était mes recettes, c'était ce que j'avais envie de faire découvrir. Autant où je voulais vraiment reproduire le couscous de maman au restaurant. Elle est venue aussi au tout début, tous les deux premiers mois, elle était tous les jours au restaurant pour former en cuisine quelqu'un qui reproduit ses couscous. Ma mère est à la retraite. Et voilà, je suis hyper contente aujourd'hui de réussir à manger le couscous de ma mère fait par quelqu'un d'autre. C'est de la transmission, j'adore quoi.
Là, c'est bon, elle a arrêté de venir dans cuisine au fil d'un coup de main ou elle vient quand même de temps en temps
Elle vient de temps en temps. Elle vient de temps en temps contrôler.
Et c'est justement, c'est parce qu'en fait, les gens, enfin, il y a beaucoup d'articles qui disent que ça a été, c'est toi et ta sœur et ta mère qui avaient créé le restaurant. En fait, c'est juste toi qui l'as créé et puis ta sœur et ta mère sont venues au fil d'un coup de main, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça. Après, en fait, c'était, même si c'est moi qui ai tout, qui ai créé tout. Tuncia, c'est une grosse aventure familiale dans le sens où, dès le début, les travaux du restaurant, l'aménagement, c'est mon père qui l'a fait. Moi, j'avais de la chance d'avoir un père qui était du bâtiment. Ensuite, ma mère, qui était donc les premiers mois en cuisine non-stop pour former le cuisinier à son couscous. Et ma sœur, qui m'a aidée et m'aide encore beaucoup en salle. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'avoir cet appui familial où on m'a vraiment soutenue aussi dans ma reconversion professionnelle, à la fois moralement et physiquement au restaurant, avec de l'aide au début, ce qui est vraiment top.
Il n'y a pas des fois des frictions avec ta mère ou ta sœur sur peut-être plus, je sais pas, j'imagine, moi si j'avais un restaurant avec ma mère, je pense que ce serait à la fois très bien et en même temps il y aurait peut-être un peu des petites complications sur les projets, les idées, les choses comme ça, ou ça s'est bien passé?
Honnêtement, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Après, il y a un truc que j'ai découvert en créant Tuncia. J'ai choisi de me reconvertir dans la cuisine. Je pense que si vous vous reconvertissez dans un autre métier où personne n'y comprend rien, personne ne vous donne de conseils, en fait. Vous faites votre boîte dans votre domaine hyper pointu et puis vous faites votre vie. Quand vous faites un restaurant, tout le monde a un avis, en fait. Tout le monde a un avis sur vos recettes, sur ce que vous devriez mettre, sur la façon dont vous devriez accueillir les gens. Il y a tous les avis, les contraires des avis des autres. Dans ma famille, chacun m'a donné ses avis, que j'ai plus ou moins respectés. un exemple, c'est je ne fais pas de pâtisserie orientale. Tous mes desserts, en fait, c'est des desserts plutôt occidentaux avec des saveurs orientales. Par exemple, on fait un cheesecake au citron. Il y a une compotée du fruit du moment. En ce moment, c'est de la nectarine avec de la fleur d'oranger. Et des petites amandes caramélisées. L'autre dessert, c'est un brownie qui est au sésame, avec dedans la chamille, qui est une pâte de sésame sucré, qui est le Nutella local en Tunisie. Et je fais d'autres choses comme ça, avec toujours la fleur d'oranger, le miel, les amandes, les pistaches, etc. Parce que à chaque fois, on me demande pourquoi j'en fais pas, parce que tout le monde adore les baklawa, etc. Mais c'est juste qu'en fait, moi, j'aime pas ça, et j'avais franchement pas trop envie de le faire. J'adore la pâtisserie, c'est moi qui fais toutes les pâtisseries au restaurant. Le cuisinier s'occupe de la partie salée et moi de cette partie-là. Et j'avais aussi envie de me faire plaisir, c'était le but du restaurant. Mais ça, c'est sûr que tous les jours, j'entends cet avis de « pourquoi tu fais pas de pâtisserie orientale ?»
C'est quoi donc le secret pour faire un bon couscous ?
Ben, je vais pas vous le donner.
Alors, peut-être pas le secret de ta mère, mais le secret, peut-être une technique, un truc.
Après, je pense que chacun a un couscous préféré. C'est compliqué si vous servez un couscous à quelqu'un qui a toujours mangé le couscous de sa mère complètement différent. Par exemple, moi, j'ai des clients qui adorent le fait que la semoule soit très fine et d'autres qui ont toujours mangé de la semoule moyenne et qui me disent « Ah, c'est dommage cette semoule fine ». Vous voyez, tout dépend de ce à quoi vous êtes habitué. Et si vous n'êtes habitué à rien, bah, c'est top parce que du coup, vous découvrirez complètement autre chose. Parce que c'est un semoule qui est... En fait, c'est le fait d'utiliser du couscous fin, ça fait qu'on a un couscous qui est très léger. Moi, c'est ce que j'aime dans ce couscous. Après, moi, je l'aime avec très peu de bouillon justement pour profiter de la semoule. Des fois, je vois les gens complètement imbiber la semoule. C'est pour ça, le secret d'un couscous, finalement, c'est compliqué de le dire parce que tout dépend des goûts de la personne.
Il y a aussi un couscous que j'ai découvert ça chez Tuncia, un couscous au poulpe, j'avais jamais vu ça. Et alors je pensais bêtement que c'était un peu une espèce de fusion entre le poulpe qui est à la mode en ce moment et un couscous. Et en fait non, c'est un vrai couscous qui existe vraiment et qui c'est un souvenir pour toi c'est par rapport à ton père, c'est ça que...
Ouais, en fait moi mon père il vient de Sfax en Tunisie, c'est une ville où on mange beaucoup de poissons, c'est connu pour ça. De base, la Tunisie c'est connu pour le couscous au poisson. Qui existe beaucoup moins au Maroc qu'en Algérie. Le couscous au poisson, plutôt au mulet, au mérou. Et en fait, à Sfax, en face de Sfax, il y a une petite île qui s'appelle Kirkena. Et sur les îles Kirkena, on pêche beaucoup le poulpe. Et c'est vraiment la spécialité de Kirkena, le couscous au poulpe. Et moi, mon père étant de pas très loin de Kirkena, donc juste en face Sfax, il a toujours mangé le couscous au poulpe. Ma grand-mère avait appris à ma mère de le faire. Et mon père est un énorme fan de poulpe. On a toujours eu du poulpe dans le congélateur au cas où pour les grands moments. Et du coup, chez moi, il y a toujours eu ce couscous au poulpe, qui est pas du tout le couscous qu'on faisait tous les dimanches parce que ça reste un couscous hyper festif même à la maison. Mais j'avais envie de le faire découvrir parce que c'est hyper rare. Et déjà, j'avais envie de faire un couscous au poisson et le poulpe, ça s'y prêtait bien. Ouais.
Et un truc aussi pour... parce que tu parlais des pâtes et les Tunisiens. C'est vrai que moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que les Tunisiens adoraient les pâtes et qu'ils avaient vraiment leur technique, enfin leur version des spaghettis bolognaises avec des trucs. Et c'est vrai que d'où ça vient, ça, ce truc parce que peu de gens le savent, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une... Comment dire? Il y a vraiment des recettes de pâtes adaptées de l'Italie, mais version tunisienne.
Ouais, ouais, je ne sais pas exactement d'où ça vient. Je pense qu'il y a une très forte proximité géographique déjà entre l'Italie et la Tunisie. J'ai quelqu'un qui m'a appris il n'y a pas très longtemps qu'en Sicile, le couscous au poulpe était très répandu. Donc je pense dans les deux sens, là, ça a pas mal voyagé dans les traditions culinaires. Mais il y a beaucoup d'influence en Tunisie de la gastronomie italienne de manière générale, même dans les salades. Quand j'ai mangé dans plusieurs endroits en Italie, ça m'a beaucoup rappelé la cuisine tunisienne.
Et est-ce que maintenant, toi qui disais adorer manger des couscous toutes les semaines, d'en manger un dimanche, maintenant que tu as un restaurant de couscous, est-ce que t'en manges encore autant ou alors est-ce que t'as pris un peu de recul?
Bah alors, tout le monde me demande ça et en fait, j'en ai mangé un ce midi. Et non, j'essaye de me limiter à un par semaine. Mais c'est un peu quand même un repas réconfort pour moi. Après, du coup, je dis à ma mère de faire d'autres spécialités tunisiennes à la place du couscous maintenant à la maison parce que j'ai déjà ma dose de couscous. Mais donc tout le monde m'en veut parce que tout le monde reveut le couscous à la maison. Mais j'en mange quand même une fois par semaine et j'aime toujours autant ça.
Et tu as eu la chance avec Tuncia d'avoir tout de suite eu de la bonne presse alors que tu as ouvert en juin, c'est ça?
Ouais.
Et tu ouvres en juin, tu n'avais pas peur aussi de te dire bon, ça va être l'été, ça va être un peu galère, mais on va.
Complètement, mais bon, j'avais pas trop le choix. Donc.
Et puis finalement, tu as eu Time Out qui a parlé de Tuncia, ensuite Télérama qui en a parlé, et puis après, ça a été assez. Genre, j'ai l'impression le fooding, je crois qu'ils ont fait un truc
sur.
Est-ce que, du coup, j'imagine que tu t'attendais pas à ce que ça marche aussi bien tout
non,
de suite.
Non, pas du tout, ouais. Non, pas du tout, je m'en doutais pas.
Et finalement, c'est dur à gérer ou en fait, ça va, tu arrives quand même à. Parce que
non,
je sais que des fois, on espère.
De ça, ouais.
Oui, mais des fois, on espère avoir. Tiens, genre peut-être 4-5 mois pour se caler avant que les gens arrivent. Et là, tout de suite, en fait, t'as eu...
Bah, ça nous a forcé à nous caler plus rapidement, en fait. C'est sûr, mais bon, c'est bon pour le moral quand même. De se dire, ok, on ne fait pas fausse route. Je pense que les débuts auraient été difficiles. Parce que honnêtement, le couscous au poulpe, aujourd'hui, ça paraît une évidence. Mais au départ, quand je dis tout le monde donnait son avis, tout le monde me disait, c'est n'importe quoi ton truc. Personne va te prendre le couscous au poulpe. J'avais quand même 70% de mon entourage qui me disait ça. Et honnêtement, ça fait du bien. Et je pense que les débuts auraient été difficiles. Je ne sais pas si on aurait réussi à le tenir à la carte. Donc ouais, c'est chouette que ça ait marché. C'est chouette, ça nous encourage, ça nous donne envie de faire encore mieux. Je pense qu'il y a encore des réglages à faire. Il y a encore plein de choses à améliorer. Mais on est hyper content. On est quand même hyper content de ce qu'on arrive à donner. Et puis, enfin, c'est fou, en fait. Moi, j'avais pas l'habitude d'un métier de service comme ça, en fait. Mais... c'est incroyable le bonheur qu'on ressent d'avoir des gens qui sont hyper contents à la fin de leur repas, qui vous félicitent. Dites, ok, c'est bon, je fais pas fausse route, c'est chouette ce qu'on fait.
Et le couscous au poulpe, c'est celui qui marche le mieux ?
Couscous merguez est très en vogue aussi.
Ça, je pense, c'est parce que c'est l'image des Français.
Complètement, ouais. Parce que bon, le couscous merguez n'existe pas en vrai, on le sait.
Et du coup, ça doit être toi, tu l'as fait en te disant, ouais, bon, je le fais parce qu'il faut le faire.
Ouais, et moi, j'aime ça. Enfin, c'est un truc complètement français. Mais moi, j'ai toujours aimé le couscous merguez. Donc même si c'est pas censé exister, pourquoi pas?
Est-ce qu'il y a des Tunisiens qui viennent chez toi?
Oui, beaucoup. Je suis hyper contente, ouais.
Et ils sont contents?
Ouais. Bah, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de restaurants tunisiens à Paris, ils sont contents de nous trouver. Et, ils réclament tous d'autres plats encore pour qu'on élargisse la carte et qu'on fasse d'autres spécialités tunisiennes. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir tourner un peu sur la carte.
Ils réclament quoi?
Ils réclament mon plat préféré, la mloukheya.
Ah, j'adore ça.
Ah ouais?
Ouais.
Pourtant, c'est peu connu. C'est vraiment super bon. C'est le plat, enfin, je pense que ça n'existe pas un Tunisien qui n'aime pas ça.
Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui...
En fait, la mloukheya, c'est un ragoût de fleurs de corette, mais la fleur de corette moulue, donc qui donne une poudre qui est verte et qui fait qu'à la fin, on a une sauce assez épaisse qu'on pourrait assimiler à la sauce du bœuf bourguignon, mais en vert foncé. Donc, pas forcément la chose la plus appétissante à vue d'œil. Mais en fait, ça cuit pendant vraiment des heures avec beaucoup d'épices, avec de la viande, du veau, du mouton, du bœuf. Moi, je préfère au veau. Et du coup, la viande s'effiloche vraiment comme dans un bœuf bourguignon, mais tout autre saveur. Et ça se mange avec du pain.
Et visuellement, c'est pas ouf. Hein.
Non, visuellement, visuellement, bon, on va pas dire à quoi ça ressemble, mais visuellement, c'est pas fou.
Ouais, ça ressemble à un gâteau au chocolat un peu bizarre, quoi. Enfin, c'est... Merci à Siwar d'être venu nous parler. Je suis content qu'on en ait aussi profité pour évoquer un peu la cuisine tunisienne que j'ai découvert il y a quelques mois et qui n'est faite que de bonnes surprises. Donc allez goûter la mloukheya, même si c'est moche, c'est pas la beauté qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, même en cuisine. Et pour le couscous, allez chez Tounsia ou chez Fatema à la Mansouria, ou même si vous allez à Marseille, allez chez Yacine, c'est couscous le dimanche. Ou même dites-nous sur Instagram ou Facebook vos meilleurs couscous partout en France, on les mettra sur notre carte Mapster. Merci encore à Fatema, Al et Siwar. Toutes les infos et les adresses évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesecoutes.com/bouffon au pluriel, et aussi sur notre carte Mapster. On est sur Twitter, @bouffonne, et pareil sur Instagram. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes animée par moi, Guillaume Malissen, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio de l'arrière-boutique. Production et coordination, c'est Laura Cuissard. Parlez-en autour de vous, plus mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. À la semaine prochaine.